Bonjour, c'est Anne-Elisabeth et vous écoutez C'est à vous, un podcast de France Télévisions. Bonne émission. Bonsoir, bienvenue dans C'est à vous en direct jusqu'à 20h50 avec l'équipe du vendredi. Salut à tous les cinq.
Bonsoir, Mamette.
Marion, votre choix de l'actu du jour.
Les mystères des manuscrits disparus de Céline réapparus presque 80 ans après.
Mohamed, la story du jour.
Ce soir, je vous explique pourquoi l'élection présidentielle de 2022 sera un record au féminin.
Pierre, dans votre œil.
Eh bien, je vous dirai pourquoi Maëva fait face à la coalition des Marseillais contre le reste du monde et c'est pas gagné.
Vous avez regardé les Marseillais, Pierre.
Ben, y a intérêt.
Comme certains de nos invités. Patrick, l'édito informé du jour.
Zemmour, Mélenchon, un événement plus télévisuel que présidentiel.
Et Mathieu dans le 5 sur 5.
Il n'y avait pas qu'un seul débat hier. En cette fin de semaine, il y en avait au moins trois. On va en parler.
Autant de sujets que l'on soumet à nos invités, le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Mais d'abord, le comédien Fabrice Luchini qui retrouve enfin son public après 14 mois de confinement, entrecoupé de quelques représentations, notamment le 9 juin dernier au Théâtre des Bouffes Parisiens.
Ça fait presque 13 ou 14 mois qu'on n'a pas pu jouer. Là, on est dans le théâtre, on va rentrer sur scène. Il y a ce mystère dont parle Jouvet, qu'enfin il y aura représentation théâtrale, parce qu'ils seront là. Sacha Guitry, dans ses mémoires, raconte que son père était tellement étonnant. Et il attendait, il écoutait le public, ce moment sublime. Et à un moment, il disait « Ils sont prêts, vous pouvez lever le rideau ». Et il se tournait vers le régisseur et il disait cette chose étonnante. Donc « J'ai quelques mots à leur dire et je reviens tout de suite ».
Le public est prêt. Fabrice Luchini a quelques mots à vous dire. Il est ce soir sur le plateau de C'est à vous. Bonsoir, cher Fabrice.
Bonsoir, Fabrice.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Le public a donc enfin le plaisir de vous retrouver sur scène au Théâtre des Bouffes Parisiens avec deux de vos spectacles fétiches, Des écrivains parlent d'argent et Conversations autour des portraits et autoportraits. Et puis, c'est encore plus intime, vous êtes au creux de nos oreilles puisque vous avez enregistré pour Gallimard un livre audio avec des extraits du Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline. Revenir sur scène, entendre le public prêt à vous entendre à nouveau. C'était quoi? C'était une délivrance?
Faut pas exagérer non plus.
J'exagérais tout de suite.
Ben non, mais les...
D'entrée de jeu.
Normalement, c'est le truc des journalistes, et vous y échappez par votre incarnation, par votre humanité, même si, attention au rire, pas tout le temps rire à tout. Parce qu'il y a une uniformisation du rire. Et pourtant, on aime le rire par-dessus tout. Hein, on peut tuer par la on ne tue pas par la colère, mais on peut tuer par le rire, le mec qui m'aide dès le début du Nietzsche. Mais... quand je suis rentré, voilà, j'ai été joué à Lyon, j'ai cassé ma voix parce qu'ils m'ont mis devant des salles de 1500 personnes les 8 derniers jours. La première est arrivée lundi, mardi, mercredi. D'abord, le miracle. Le miracle, il est simple. Au-delà de notre sensation personnelle, ils sont là. Ils sont 548 et ils sont là. Il y a des milliers de possibilités d'aller ailleurs. Il y a des milliers de débats. Il y a des milliers de meufs dans la rue. Il y a des milliers de cums dans la rue. Il y a des milliers de bistrots. Il y a des milliers de bobos. Il y a des milliers de possibilités. Il y a des centaines de cochonneries sur les portables. Eh ben non.
Ils sont là pour vous, pour les...
Ça, c'est un énorme problème qui est difficile à résoudre. Le mec très humble va te dire « Non, moi, je ne suis rien, je suis une merde humaine et je... » Non.
Je suis un passeur.
Je pense que les gens qui disent que c'est pour toi, ils ont tort, parce que si tu n'es pas soutenu par des génies qui s'appellent Peggy, Marx dans le premier, Céline, La Fontaine... Et dans le deuxième, Gaston Gallimard, Jean Cocteau, Jean Genet, la drôlerie irrésistible de Cocteau. Si t'as pas tout ça, faut pas croire. C'est pas un jour, on connaît l'histoire, Jacques Chirac, par gentillesse. Ah, il voulait me faire un compliment, puis après je termine très vite, ouais. Parce que je fais toujours trop long. J'avais dit, ne fais pas long au début, tu laisses. Bon, mais je la fais très courte. Jacques Chirac, très gentiment, vient à la Gaîté Montparnasse, où un de vos merveilleux responsables est venu me voir dans l'arrivée à New York, il avait 8 ans. J'ai dit, ta mère était abonnée à Télérama. Le monsieur qui fait il m'a dit dans le hall qu'il y a 20 ans, à 8 ans, il a été voir l'arrivée à New York avec sa mère. Il avait 8 ans. J'ai dit, mais ta mère est une grande névrosée merveilleuse ou une abonnée à Télérama radicale. Parce que pour emmener un enfant à 8 ans, écouter Céline, c'est qu'il y a une dimension sublime. Et il est merveilleux et je parlerai avec lui hors antenne pour voir dans quelle direction il veut vivre. Mais la réalité, c'est que Jacques Chirac me dit, pendant le La Fontaine, Fabrice, je vais vous dire quelque chose. Hein. Je dis, vous rendez compte, nous avons la plus belle langue de... C'est une langue qui est ma vie. Quand Cioran abandonne le roumain pour le français, quand moi je me nourris, il m'arrête, il me dit, je vous arrête. Le botin en anglais, il y a autant de monde. Et malheureusement, non.
C'est pas vrai.
Il n'y a pas autant de monde.
Vous accueillez votre public avec des mots de Nietzsche. Tout esprit profond avance masqué. Et que demande le grand philosophe ? Un masque de plus. Donc l'esprit profond, il est du côté du public dans vos spectacles.
C'est-à-dire qu'avec tout, le fait qu'on a tous des vieux trucs de Covid, autant trouver une métaphore pour arrondir. C'est très bizarre. Leurs rires sont moins puissants. Mais je pense que les gens qui viennent là... Pour moi, alors là, je pèse vraiment mes mots. C'est un miracle. J'ouvre la veste achetée ce matin dans l'espoir qu'elle fasse Jones. Mais je pense que j'ai très chaud. Alors,
dans Des écrivains parlent d'argent, vous racontez qu'en 2 minutes après la crise, une nouvelle race est apparue, les économistes. Là, ce sont les médecins qui ont pendant des mois été omniprésents dans les médias, qu'ils sont encore. Et vous avez tout analysé, tout regardé, parce qu'avec à chaque médecin... Vous avez pu lui définir un rôle, un personnage, une utilité, une fonction. Ça vous a fasciné à ce point ? Ça pourrait donner lieu à un nouveau spectacle ?
Pas impossible. Quelle intuition, Babette. Non mais c'est... Bon, au premier rang, Véran, le déterminé. Véran, l'affecté. Véran, le susceptible, supportant pas. Je vous interdis de parler. Hein, quand il dit « je sors des urgences ».
C'était à l'Assemblée nationale. Et
Véran, moi j'ai conseillé, j'ai dit modestement à Emmanuel Macron, moins conquérant quand il rentre à l'hôpital, moins joyeux, tu vois. Moins il y a plein de caméras, c'est bon pour moi. Non, plus dans l'affect. Je rentre, c'est grave. Après, il y avait beaucoup de genres de médecins. Moi j'aime beaucoup Éric Combe, très Brassens. Tu vois, j'aime Éric Combe. Très, très Brassens, très Jean Ferrat, très chanson française. Il est venu lundi soir avec sa femme, élégante, remarquable.
Il est venu vous voir.
Il est venu à 18h. Je lui ai dit, mais comment tu fais que t'es malade ? Il m'a dit, je me suis arrangé. Parce que 18h, mes amis, c'est tout un processus. Vous pourriez me demander.
Mais c'était le couvre-feu.
Mais pourquoi 18h ? Parce que je n'ai pas envie du... J'allais dire du dentiste ou du gynéco qui veut un peu se cultiver à 20h30, hein, il emmène sa meuf, qui dit viens, on va voir un truc sympa, il paraît qu'il est marrant. Non, je veux qu'il y ait des difficultés. Il faut qu'il y ait une détermination.
À parce venir. Que,
à venir.
Oui. Vous voulez qu'il y ait des embûches en fait.
Eh bien, le seul qui était gratuit, je l'ai enlevé parce qu'on n'est pas obligé d'en avoir un. Donc je l'ai mis sur un tabouret, ça fait une place de plus, 61 €. On ne peut pas cracher dessus totalement.
Voilà, il y avait les pessimistes, les optimistes, les mélancoliques, les hystériques, les pascaliens, les nietzschéens. Vous avez vu des tas de choses qu'on n'avait pas vues dans cette crise du Covid. Et vous en feriez un excellent spectacle avec un peu de Didier Raoult dedans.
C'est le rebelle, c'est le rebelle. C'est la coiffure que je l'ai appelé à Marseille. On n'était pas loin d'un contact. L'année dernière, pointu, cultivé, répondant sur Nietzsche sans problème. Mais ce n'est que partie remise. Raoult, gros dossier. J'aime beaucoup.
Le Covid.
J'aime énormément le Suisse à Genève.
Oui. Flao.
Antoine Flao.
Ah, je l'aime Flao.
Antoine Flao.
Ah, le Flao modéré.
Il est pas suisse d'ailleurs. Il vit.
Oui,
mais il vit en Suisse.
Il travaille en Suisse.
Très bon. Cohen toujours dans la réalité. J'aime Flao. Je ne méprise pas du tout un que j'aime énormément aussi, un qui est marié avec la ministre.
Mathias Vargon.
Il ne faut pas l'emmerder. Lui, il ne faut pas l'emmerder.
Urgentiste, Mathias
Vargon. C'est urgentiste, coup de boule, Saint-Denis. Il peut te mettre un coup de boule si tout élève.
Oui, c'est ça.
Un seul mot en plus, c'est coup de boule. Ça râle un peu, tu vois, armé. Il ne faut pas l'emmerder, mais courageux. Et puis Saint-Denis, pas homme de gauche qui frime et puis qui habite le 16e. Lui, Saint-Denis.
Colonne vertébrale.
Surtout
Cohérence.
Le Covid.
Parce que quand on est de gauche, on est condamné à habiter à Saint-Denis. C'est ma thèse. C'est pour ça que j'habite, moi, pas du tout à Saint-Denis.
Et que vous n'êtes pas de gauche.
Moyennement, j'aurais aimé, je l'ai toujours dit, j'aurais adoré, mais il y a trop de qualités. Il faut des qualités supérieures à un être humain moyen. Alors que de droite, c'est médiocre, mais c'est plus facile d'accès.
Le Covid qui est toujours présent dans l'actualité.
Je vous donnerai une définition dans deux minutes de la droite et de la gauche.
On va y revenir. Oui, parce que l'actualité, elle est rythmée désormais par l'élection présidentielle.
C'est
la guerre.
Bien, ces cheveux, ça te va.
La guerre des débats a commencé, titre Le Parisien aujourd'hui en France ce vendredi. Première grosse bataille hier soir.
Le Zemmouristan, ça existe. D'accord ?
C'est pas mal.
Ça existe. Oui, oui, ça existe. Un pays où les femmes sont rabaissées, un pays où il y a la peine de mort, qui vous plaît, un pays où les homosexuels sont punis, et un pays où on adhère
vous
pas à la convention internationale.
Là, vous décrivez les banlieues islamisées,
ça
monsieur Mélenchon.
L'Arabie Saoudite.
Oui, ça s'appelle aussi les banlieues islamisées.
Non, mais c'est leur programme, c'est ce que vous racontez.
C'est très bien, monsieur Mélenchon. Ah. Vous êtes le produit de mon idée de la France. Quand votre grand-père.
Idée, non, vous plaisantez,
quand votre
non
quand vous votre. Laissez-moi parler.
Vous êtes depuis toujours opposé au bilan de la
Révolution française. Quand votre grand-père est arrivé d'Espagne, du Maroc et d'Algérie. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'appelait Mélenchon. Il a changé son nom, il l'a francisé. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a donné des prénoms français à ses enfants et ses petits-enfants. Exactement comme les miens. Le mien, mon grand-père, a changé de prénom. Il s'est appelé Justin. Ça, c'est l'assimilation à la française. Vous en êtes le produit, mais vous le reniez aujourd'hui.
Non, monsieur. Pardon, monsieur Mélenchon.
Le choc Mélenchon-Zemmour a été suivi par 3 800 000 téléspectateurs en tête des programmes hier soir, tout canal confondu. Qu'est-ce que ça dit, Patrick, de ce début de campagne présidentielle ?
D'abord, c'est un événement tout à fait inédit. Le seul précédent qui s'en rapproche, je l'ai évoqué hier, c'était le débat Tapie-Le Pen de 89, qui avait rassemblé plus de 9 millions de téléspectateurs sur TF1, mais en démarrant à 23 heures. Cela dit, jamais, à 7 mois d'une présidentielle, deux candidats, à supposer qu'Éric Zemmour le soit, disons deux prétendants qui ne figurent pas parmi les favoris, qu'aucun institut aujourd'hui ne place au second tour, n'avaient été regardés par autant de Français. Alors qu'est-ce que ça dit ? D'abord, notre goût pour le spectacle politique. On nous avait promis de la castagne, le choc des extrêmes ou de deux visions de la France irréconciliables. Et de ce point de vue, comme entre Tapie et Le Pen, la promesse de choc a été tenue, mais avec plus de citations historiques et moins d'invectives qu'il y a 30 ans. Ensuite, un indéniable effet de curiosité, moins pour Jean-Luc Mélenchon, dont on connaît la pugnacité, davantage pour Éric Zemmour, qui vient de changer de statut et dont beaucoup d'électeurs voulaient voir ce qu'il avait dans le ventre, comme on dit, face à une bête de télé comme Mélenchon. Enfin, sur le plan politique, l'attrait jamais démenti des Français pour la nouveauté, c'est presque devenu un rituel des campagnes présidentielles. À l'automne, un candidat émerge, grimpe dans les sondages, fait de l'audience à la télévision, apparaît comme un trublion, voire comme un possible troisième homme. Le rôle a été tenu successivement par Jean-Pierre Chevènement, par François Bayrou, par Jean-Luc Mélenchon lui-même en 2017, mais jusqu'ici, un seul de ces outsiders est parvenu à accéder au second tour, puis à l'Élysée, Emmanuel Macron.
Ce débat, est-ce qu'il va peser sur le scrutin présidentiel ?
Non, je crois que c'était un événement télévisuel, mais pas un événement présidentiel. Les précédents que je viens de rappeler montrent que les Français ne se projettent réellement vers l'élection suprême qu'en janvier, février au plus tôt, et que les sondages réalisés l'année d'avant n'ont strictement aucune valeur prédictive. Le chemin est encore très long. Les prochains baromètres nous diront si Mélenchon est parvenu à relancer sa campagne, c'était son objectif, et si Zemmour confirme sa percée et sa candidature. Mais en attendant, le sondage Odoxa que l'Obs a publié hier relativise considérablement la portée du débat de BFM TV. 63% des personnes interrogées ne se sentent proches ni de l'un ni de l'autre, et 69% les jugent l'un et l'autre incapables de gouverner la France. Il est donc probable que parmi les presque 4 millions de téléspectateurs attirés par ce théâtre politique, cette joute entre les hommes qui parlaient d'abord à leurs partisans et à leur camp, dont les échanges ont été davantage idéologiques que programmatiques, il est probable qu'une large majorité soit dit en éteignant le poste. Heureusement que nous n'avons pas à choisir, ou pourvu que nous n'ayons pas à choisir entre ces deux-là.
Fabrice Tuchini, vous avez regardé ce théâtre politique, c'en est, c'était...
Ça m'a fait un peu peur, j'ai regardé, puis j'ai lu Pascal très rapidement. Je suis dans les pensées de Pascal, donc je me suis dit, de là vient que les hommes aiment tant le bruit et le remuement, de là vient que la prison est un supplice si horrible, de là vient que le plaisir de la solitude est une chose absolument incompréhensible. Et il explique que tout ça, c'est un immense divertissement, Pascal. La guerre, les femmes, les conversations. Tout ça pour ne pas
affronter le chaos. Et comme bientôt, dans quelques mois, j'ai un spectacle qui tournera autour du vide intérieur, très dépressif, j'ai pas tenu parce que ça m'angoisse. J'ai senti que ça allait s'engueuler.
Et c'est l'engueulade qui vous angoisse ou le
non,
vide
Non, mais je
qui...
n'ai pas. D'abord, je n'ai pas de légitimité pour avoir des jugements sur les politiques. C'est une chose trop sérieuse.
Ah, vous les avez souvent croquées. Non, vous avez souvent commenté leurs prestations télévisées.
Et c'est parce que ça dont je voulais parler.
Dans mon spectacle, ça s'appelle. Il y a deux spectacles. Il y a aussi Croquis de mémoire de Jean Co. Croquis, la dernière fois, il y a un an et demi, je vous ai dit la phrase de Baudelaire, « Nous avons cueilli quelques croquis pour votre album Vorace ». Ce qui est extraordinaire, c'est que dans ce spectacle qui s'appelle les croquis de mémoire et surtout les portraits, il y a un portrait sublime de Gaston Gallimard, le grand directeur de Gallimard, il y a un portrait de Céline, il y a un portrait de Jean Cocteau, il y a des portraits. Puis modestement, je fais des petits portraits. Je fais, depuis quelque temps, un événement étonnant qui s'est passé avec Jean Daniel. Je ne peux pas vous le faire. Si on a le temps, je vous le ferai. Je croque des petits croquis à un petit niveau, pas comme Jean Co. Donc, Sarkozy, un tout petit... Le président Sarkozy, le président Hollande. Je fais des petits croquis moyens. Ce n'est pas le niveau de Jean Co. Mais pour alterner les grands croquis que je raconte, je raconte... J'ai 30 secondes. Jean Daniel, je vous la fais rapide. Jean Daniel, star Mitterrand à peu près du Nouvel Obs. Grand Jean Daniel, vous rappelez? Vous l'avez très bien connu, certainement, Pierre, et toi aussi, et toi aussi. Jean, très parti socialiste, ça devient une réunion de gauche. Mais il invitait tous les 2-3 ans quelques personnalités qui avaient fait l'événement de l'année. Il invite la prof de danse, la responsable de Lyon, et à un moment, il y a une cinéaste et il y a moi. Il fait les compliments d'usage à chacun, et un certain Armanet, journaliste, fait des vieilles fiches. François Armanet, j'adore ce mot. François Armanet, fait des vieilles fiches. Alors pour moi, il dit, voilà, il a adapté La Fontaine et Céline, tac, tac. Pour la dame de Lyon, l'Opéra de Lyon, tac, tac, l'Opéra de Lyon, c'est merveilleux, les gens, ils rampent, tarasse, tout est bon, il y a des gens devant la porte, tarasse, et arrive la femme. Et là, il commence. Mais comment, à votre âge, madame, avez-vous pu avoir l'acuité, le génie de sentir la maternité pendant l'hiver et dans cette neige qui tombe. Il y a un blanc parce que Bernadette Lafont était présente. On se dit, il se plante le cinéaste. C'est pas du tout. Il s'adresse à une femme qui a fait « Y aura-t-il de la neige en hiver ?» Et il s'adresse à Claire Denis. Moi, d'une lâcheté absolue, je dis, je vais pas au charbon, je le laisse faire. Et on est complètement déprimé. Et ça développe, ça développe. Mais quel génie, mais comment vous pouvez sentir? Et là, à un moment, Claire Denis dit, je ne suis pas une telle, je suis Claire Denis. Et il s'est passé quelque chose d'énorme. Au lieu d'être mal, il a continué à manger, il nous a laissé dans notre embarras, et je lui ai dit, tu as fait un coma social. T'as réussi à faire. Je ne suis pas. Je suis Claire Denis, monsieur Daniel. Et regarde bien.
C'est pas facile, le coma social.
C'est un événement génial. Il m'a appelé l'après-midi pour me dire, est-ce que j'envoie des roses? Je dis, moi, je ne suis pas dans un milieu très bourgeois, je ne connais pas. Je crois qu'il ne faut pas insister. Mettre les roses, tu vas appuyer. Voilà des petits bouts de croquis au milieu des grands croquis. Merci Pierre, mais tu es bienveillant tout le temps. Mais je mêle mes croquis.
Mais du coup, on meurt d'envie que vous croquiez ces animaux singuliers que sont les responsables politiques au même titre que les comédiens.
Ils sont incompréhensibles, mon chéri. Incompréhensibles. Moi, je vous connais, j'ai la chance de voir Emmanuel Macron 3 fois par an, même un peu plus peut-être. Je serais incapable de dire Hollande, que j'adore. Physique étonnant, physique sexué. Très grande incarnation sexuelle, François Hollande. Mais je ne saurais pas te dire. Ce qui est étonnant, c'est pourquoi Hollande dans la vie est irrésistible et pourquoi, quand il parlait, il abandonnait cette identité. Donc, je ne fais pas du tout un spectacle politique, je parle que de Proust, que de Cocteau, que de Céline.
Mais vous dites qu'ils sont assez névrosés d'imaginer qu'ils peuvent changer le monde à eux seuls. C'est cette névrose-là qui est intéressante.
Ben, d'un point de vue pascalien, ils sont l'incarnation de la folie. C'est vraiment des incarnations pascaliennes, dans le sens qu'ils ne sont pas confrontés à ce qu'ils sont, puisque toutes les secondes, il y a une phrase de Pascal géniale, Le roi est environné de gens qui veulent divertir le roi. Parce que s'il ne se divertit pas, il est encore plus malheureux que le moindre de ses sujets, qui lui joue et se divertit. Donc, les rois, les présidents sont des flippés.
Pierre.
Toujours, toujours le parti des textes. Et en juin dernier, devant Emmanuel Macron à Château-Thierry pour fêter le 400e anniversaire de La Fontaine, le poète, dans votre bouche, n'a jamais paru aussi actuel.
Certains ours montagnards, ours à demi léché, confiné, là ça devient sublime, confiné par le sort. Nous, on a été confiné par le Covid, lui, il a été confiné par le sort. Nouveau Bellérophon vivait seul et caché. Et là, c'est un grand conseil qu'on peut dire au gouvernement, à Blanquer, à Véran. Il fut devenu fou, écoutez-moi bien. La raison d'ordinaire n'habite pas longtemps chez les gens séquestrés. Tu vois à quel point on demandait qu'on réouvre, parce qu'il l'a dit, la raison d'ordinaire n'habite pas longtemps chez les gens séquestrés.
Ce déplacement, Fabrice, une journaliste avait demandé à Emmanuel Macron si Jean de La Fontaine était sexiste. Et la question vous avait sidéré.
Il y a deux choses qui m'ont sidéré. C'est un gars d'ITélé, qui, je raconterai l'anecdote, qui est la caricature de des médias. Je vous raconte d'abord l'anecdote qui m'a rendu hystérique. Je dis des fables de La Fontaine, c'est pas facile, c'est pas mon théâtre, il y a Emmanuel Macron, mais cette phrase est tellement géniale sur le confinement. Oui. La raison d'ordinaire n'habite pas longtemps chez les gens séquestrés. Il est bon de parler, meilleur de se taire, mais tous deux sont mauvais, alors qu'ils sont tout très... Je disais à Emmanuel Macron, il faut libérer les gens, parce que la raison d'ordinaire, on va devenir tous fous. Mmh. Moi, j'ai des témoignages de grands psychiatres, il va y avoir un drame immense. Bon, ça, c'est un problème. Deuxième chose. Je dis oui, je dis non, moi je prends que Anne-Elisabeth Lemoine, je veux pas de journaliste autre. Mais comme ils essayent d'insister, à un moment, on m'envoie un mec, et le mec me fait « Bon, alors, tu sais, ils mettent la vieille caméra. Bon, et alors vous je dis, comme disait La Fontaine, il est bon de parler, il me coupe et il me dit « Non, non, ça vous l'avez déjà dit !» J'ai dit, j'ai pas compris. Vous me demandez de ne pas redire La Fontaine, parce que je l'ai déjà dit il y a 10 minutes. Mais vous représentez, vous savez ce que vous représentez. Moi, ça fait 50 ans, jour et nuit, que je dis cette phrase. Mais vous, parce que vous l'avez écoutée il y a 10 minutes, mais vous incarnez l'immondice, mon pauvre vieux. Puis je me suis calmé. J'aurais pu appeler Bolloré, Il est de la bonne. Non, mais je m'en fous, moi. Non, parce que dans mon spectacle, les écrivains parlent d'argent, je dis combien le montant de mon assurance vie. Et je la dis à les rondelettes, on va pas cacher, on est allé comme Lescure, allé comme Cohen, allé ronde. On a de l'oseille de côté, on a mis de côté. Et donc je me lève et je dis, voilà le prix de mon assurance vie. Et je me lève, tout le monde rit normalement, et je dis, attendez, à côté de Vincent Bolloré, je suis un Roumain. Donc, c'est pour ça que je vous ai cité Bolloré.
On parlait du sexisme soi-disant de La Fontaine. La question de la place des femmes en politique et dans la société se pose plus que jamais. C'est l'heure de la story de Mohamed Bouafsi. Salut Mohamed.
Bonjour Mohamed.
Bonsoir cher
monsieur. 2022 sera-t-elle une année record? Il pourrait y avoir plus de femmes candidates à l'élection présidentielle que jamais auparavant.
L'année dernière, un sondage expliquait que 71% des Français souhaitaient voir une femme présidente de la République. Les femmes politiques françaises les ont écoutées.
J'ai décidé d'être candidate à la présidence de la République française.
Je suis candidate à la présidence de la République pour restaurer la fierté française.
C'est la raison pour laquelle je suis à nouveau candidate à la présidentielle devant vous.
Oui, je suis candidate à la primaire des écologistes.
En cas de victoire de Sandrine Rousseau pour les écolos et de Valérie Pécresse chez les Républicains, avec Anne Hidalgo, Marine Le Pen, Nathalie Arthaud et Hélène Touy du parti animaliste, l'élection présidentielle de 2022 pourrait être une élection historique. La première présidentielle depuis l'affaire MeToo deviendrait alors le premier tour le plus féminin de l'histoire. Et on peut rendre hommage à la première femme qui s'est présentée à l'élection présidentielle. C'était en 1974.
Eh bien oui, je suis une femme et j'ose me présenter comme candidate à la présidence de cette République d'hommes. C'est légal et pourtant cela choque Cela paraît étrange, même aux hommes de gauche, et cela doit l'être, puisque je suis la seule. À l'usine, au bureau, dans les services, les femmes n'ont que des emplois subalternes, alors que les hommes sont en majorité des cadres.
Salut. Arlette Laguier. En 1974, elle récoltera un peu plus de 2% des voix cette année-là. Elle détient le record du nombre de candidatures avec 6 candidatures à l'élection présidentielle au total depuis 1965, année de la première élection présidentielle au suffrage universel direct. 20 femmes, Fabrice, se sont présentées contre 82 hommes. En 2007, pour la première fois, une femme arrive au second tour de l'élection. Il s'agit de Ségolène Royal. Elle faisait face à Nicolas Sarkozy. 10 ans plus tard, Marine Le Pen accède également au second tour. Une femme à l'Élysée en 2022, c'est donc une possibilité 77 ans après le premier vote des femmes au municipal en 1945. Fabrice Lucchini, est-ce que pour vous, les femmes pèsent à leur juste valeur dans l'agora, dans le débat politique ?
Il n'y a même pas de doute. Moi, je ne suis... Mon psychanalyste, il y a 40 ans, disait « Entre une femme que j'analyse et un homme, je préfère quand même les femmes, parce que les hommes, c'est « tu verras, et puis on voit jamais rien. » Eh bien, moi, je suis pas du tout pour anéantir la guerre des sexes, puisque ça, c'est sublimement vivant. Je n'aime pas l'indifférenciation délirante américaine. Mais par contre, la supériorité intrinsèque, c'est pas par démagogie, la supériorité intrinsèque de l'intelligence, du courage, de l'intelligence du réel, de l'intelligence... On va dire, ah, tu la résumes, elle n'est pas faite pour les concepts. Aussi les concepts, tout. Nous sommes des rats, elles sont divines, et je n'ai aucun problème. Je suis totalement soumis aux femmes. Avant, c'était une obsession, comme dirait Céline, j'étais un tracassé du périnée. Et après, je sais pas, regardez un déjeuner entre femmes et un déjeuner entre hommes. Les femmes entre elles sont passionnées par ce que raconte la copine. Ouais. La copine dit, alors tu comprends, je suis rentrée, j'avais un petit haut, là, j'aime bien ce mot, j'avais un petit haut. Et puis tout d'un coup, elle a dit, mets-toi à l'aise, tu vois les trois filles. Ah bon ? Il est venu en 2002 voir l'arrivée à New York, il avait 8 ans. Ta mère est une abonnée à Télérama, c'est pas possible.
Non. Ma sœur.
Ta sœur, oui. Tu vois, je savais. Je savais. À 8 ans, il a été écouté du Céline. Donc, tu vois les femmes autour des femmes, de la femme qui dit « C'est pas vrai. Oh, mais alors, qu'est-ce que t'as fait ?»« Oh, ben, moi, j'ai dit, j'enlève pas mon petit haut. Mais pourquoi ?» La même scène. 4 mecs. Je suis arrivé, tu vois. Je lui ai dit « Ben, enlève le haut. Ah bon ? Tu l'as niqué ?» Non. Oh, tu fais chier. Incapable de se projeter. Mm-hmm. Le génie féminin... C'est la vitalité, c'est la vivacité. Et je dois dire que 84% de mes clientes, de mes spectatrices, sont des femmes. C'est elles qui achètent le
c'est
billet.
C'est là où je voulais vous
ah,
faire venir.
Ah, mais moi, je dis la vérité.
C'est ah, des oui. femmes qui viennent vous voir.
C'est Bernstein qu'on appelait. Ah, oui. Tu te rappelles le grand... Ah, j'ai fait une...
Soignez votre clientèle, là.
Ah, plus que ça. Ah, oui. Si elles n'étaient pas là, je ne peux pas jouer.
Ah oui,
c'est très simple. Ouais. Pourquoi ? Bernstein, c'est le grand dramaturge pote de Guitry, Bernstein, disait qu'on a... qui était un gros queutard. Et on l'appelait Divan le Terrible. Eh bien, il disait cette phrase, misogyne, « Aucune femme ne résiste à 6000 roses par jour. » Donc, il envoyait 6000 roses, et même à un moment, celle qu'il a trouvée, il y allait, ta race, il la niquait. Bon, alors, ça, c'est pas intéressant. Par contre, c'est lui qui a écrit à Guitry, « Si tu n'as pas la clientèle féminine. Pourquoi ? Parce que les hommes n'ont pas de curiosité. Parce que venir écouter Charles Péguy, La Fontaine, venir écouter Marx, parce que le premier spectacle, ça commence par Marx. Les mecs, ils ont envie de faire. Ils n'ont pas envie. Donc j'ai nommé ce spectateur soumis. Je l'ai appelé Robert. Et les gens me disent, mais vous êtes méprisant. Je dis, mais non, pauvre couillon, c'est mon vrai prénom. Mmh. Avant d'être coiffeur, je m'appelais Robert. Donc Robert, c'est l'homme. L'homme, il a peu de curiosité. Il aime bien le foot, il aime bien le sport, il aime bien... Bon, il est très habité par sa teub, il a Non, mais il a des désirs un peu mécaniques. Il peut se tirer sur la tige, tu vois. Les femmes, c'est plus riche. C'est plus riche.
Mais ça rassemble vos spectacles, les femmes qui viennent accompagner, mais aussi toute tendance politique, des zémouristes ou des zémouriens peut-être, des fionistes, des mélenchonistes, vous rassemblez.
Il y a tous les gens dont vous avez parlé sont venus. Tous les gens.
Et vous le sentez, ça ? Vous sentez les tendances politiques en fonction de...
Ça réagit différemment.
Quand ils sont en retard, puisque 6 heures, c'est pas facile, J'accuse un peu la maire de Paris, il y a une adhésion.
Voilà. Spontané, bien sûr. Mm. Revenons à la littérature et à un écrivain dont vous aimez lire et dire les textes.
Fabrice, vous avez 17 ans quand vous découvrez Louis-Ferdinand Céline, une passion que vous transposez sur scène. Depuis 35 ans, vous lisez ses œuvres. Voyage au bout de la nuit, Mort à crédit, eh bien, vous allez bientôt pouvoir renouveler vos lectures.
C'est un trésor littéraire qu'on pensait perdu à jamais. Des manuscrits de l'écrivain Louis-Ferdinand Céline que ses ayants droit viennent de récupérer après des décennies d'interrogations.
On espérait qu'ils existaient encore, voilà. Mais on n'en savait rien.
Alors le récit de cette histoire est digne d'un polar historique. En 1944, Céline, qui a basculé dans l'antisémitisme le plus abject, quitte la France précipitamment, sentant venir la fin de la guerre. Il laisse dans son appartement de Montmartre des manuscrits qui seront vraisemblablement récupérés par des résistants. Depuis, plus de traces. Volés, détruits, on ne sait pas. En 2020, un ancien journaliste à Libération, Jean-Pierre Thibaudat, contacte les ayants droit de Céline. Il est en possession de 6000 pages d'inédits reliées par les fameuses pinces à linge de l'écrivain. Parmi elles, le mythique casse-pipe chez non manquant entre Mort à crédit et Le Voyage. Un peu comme si on avait retrouvé un quart de La recherche du temps perdu de Proust. Comment ces pages sont-elles arrivées entre ses mains ? Secret des sources, se défend le journaliste, qui a attendu la mort de la veuve de Céline, que vous avez bien connue il y a 2 ans, à 107 ans, pour apparaître. Problème, les ayants droit, eux, sont furieux, accusent Thibaudat de recel de vol et envoient leur avocat chargé.
En ce qui concerne le préjudice financier, bah, il s'élève à plusieurs millions d'euros, mais c'est surtout le préjudice moral qui est terrible. Ce que nous regrettons tous, c'est que vous avez des passionnés de Céline qui n'ont pas pu bénéficier de ses œuvres alors qu'elles étaient à la disposition de M. Thibaudat depuis, a priori, 2005-2006.
Après plainte, les textes leur ont été restitués près de 80 ans après. Alors pourra-t-on bientôt lire ces manuscrits inédits ? Antoine Gallimard, patron des éditions du même nom, éditeur historique de Céline depuis 1951, le souhaite. Et d'après la rumeur, Casse-pipe devrait sortir dès l'année prochaine. Ces inédits, j'imagine que vous les attendez follement.
C'est le petit-fils de Gaston, le grand Gaston.
Le grand Gaston
Gallimard. Celui qui est dans mon spectacle, le génie.
Absolument,
qui est mort.
Décrit par Jean Cau dans un portrait
génial,
sublime.
Génial, absolument.
Ces inédits.
Les inédits, j'attends de voir, mais j'ai un petit cadeau pour Pierre Lescure et pour vous tous. Comme il aime le cinéma, je voulais vous dire 3 lignes de Céline sur le cinéma en 1929. Ça vous intéresse ou pas maintenant ? Pas
si, tout de suite. C'est maintenant.
C'est
mais
maintenant.
Cet exemplaire me fascine.
Bah, c'est celui que j'avais quand j'avais 17 ans. C'est vous savez, en 29, on va régler le problème. Les questions du « et Céline ». L'art, le génie, Emmanuel Berle, qui avait toutes les raisons de haïr Céline. Excusez-moi, mais j'ai beaucoup joué. Emmanuel Berle, qui avait toutes les raisons de... Il était juif. Berle dit dans sa lettre, il y a 2 tempéraments romanesques insurmontables, indépassables. Ils s'appellent Céline et Proust. Proust et Céline. Bon. Deleuze dit, si Céline est un génie, c'est qu'il a réinventé, déstructuré la grammaire. Et il ne parle jamais de sa misère, mais de la misère. Et si Proust est génial, c'est qu'il ne parle pas de son enfance, il parle de l'enfance. Il échappe à la chose privée, ce qui est actuellement notre truc. Pour Pierre Lescure et Babette et Patrick Cohen et toi,
Mohamed,
que tu as vécu. En 1929, il est en Amérique. Je vous la fais rapide. C'est le début du génie qui va venir. Il est dans sa chambre de bonne, il est dans sa chambre d'hôtel, il n'arrive pas à dormir, il se tire sur la tige, j'ai écrit dans le livre, même ça ne le fait pas s'endormir, c'est normal de rire à ça. Et il sort dehors, et puis il erre, il tombe dans un cinéma, 1929, et il dit, il faisait dans ce cinéma bon, doux et chaud, de volumineuses orgues, tout à fait tendres, comme dans une basilique, mais qui serait chauffé, des orgues comme des cuisses. Écoutez ça. On plonge en plein dans le pardon tiède. On aurait eu qu'à se laisser aller pour penser que peut-être le monde allait se convertir à l'indulgence. On y était soit presque déjà. Alors les rêves montent dans la nuit pour aller s'embraser au milieu de la lumière qui bouge. Alors les rêves montent dans la nuit pour s'embraser à la lumière qui bouge. C'est pas tout à fait vivant ce qui se passe sur les écrans. Il reste dedans une grande place trouble pour les rêves, pour les pauvres et pour les morts.
Il faut se dépêcher de s'engaver de rêves pour traverser la vie qui vous attend dehors, sortie du cinéma, durer quelques jours de plus à travers cette atrocité des choses et des hommes. On choisit parmi les rêves ceux qui vous réchauffent le mieux l'âme. Pour moi, je l'avoue, c'était les cochons. Hein, c'était les cochons. Voilà, et ça continue à l'infini.
Pourquoi est-ce qu'il passe la rampe à ce point, Céline ? Parce que vous avez commencé à le lire il y a 35 ans.
Pourquoi il passe la rampe ? Parce qu'il a déstructuré, il a rendu... C'est le cinéaste, c'est le plus grand cinéaste. Mort à crédit et voyage, c'est Abel Gance, c'est pas au hasard. C'est un écrivain qui a cassé, comme Flaubert l'a cassé, comme La Fontaine l'a cassé. Il a cassé, il a restitué par une manière de mêler du très écrit et des ruptures. Il a inventé... Je crois que Libération n'existerait pas si Céline n'était pas née. Tout ce que nous faisons est en fonction de la rupture révolutionnaire. Et d'habitude, on me dit, mais cet abject antisémite... Quand j'avais 18 ou 20 ans, quand j'ai appris qu'il était... politiquement indéfendable, ben j'étais déprimé comme un adolescent qui aime Rimbaud et à qui on dit que Rimbaud est une... qui n'était pas gentil non plus, Rimbaud et Verlaine. Donc, j'ai travaillé, je me suis interrogé et je me suis dit, l'œuvre d'art n'a rien à voir avec la qualité intrinsèque des individus. Lionel Jospin. Lionel Jospin est un mec bien. Lionel Jospin, il habite à l'île de Ré, on se fait des signes, il est de gauche. Et c'est vraiment un honnête homme. Il a été trotskiste. Arlette Laguillier, je me souviens de son discours face à la bourgeoisie qui maintient le joug sur les forces ouvrières et prolétariennes, les étudiants révolutionnaires marxistes-léninistes. Nous irons détruire les garde-choum et casser les cadences infernales. Nous irons à Renault-Flin. J'adorais cette phrase-là. Nous irons à Renault-Flin. Il n'y avait personne à Renault-Flin. Les mecs, les ouvriers, quand les mecs arrivaient, les trotskistes disaient « Cassez-vous ».
Et Lionel Jospin.
Eh bien, Lionel Jospin. Qu'habite l'île de Ré. Il est honnêtement remarquable.
Mais...
C'est pas une saloperie.
Et alors ? Et
sur, par mais il n'a pas écrit Le Voyage au bout de la nuit. C'est pas méchant. Non, mais c'est pas méchant.
Et on est nombreux dans ce cas-là.
Bah, donc ça n'a rien à voir, malheureusement.
On continue à évoquer l'actualité, à dérouler l'émission comme on peut.
J'aime beaucoup.
Avec le 5 sur 5 de Mathieu Béliard.
Voilà, reste. Hein. Oui.
Salut Mathieu.
Bonsoir Babette, bonsoir à toutes et à tous.
Salut Mathieu. 5 sur 5 très politique ce soir.
Ah oui, Babette, Marion, Pierre, Patrick, Mohamed, Fabrice, je vous parle évidemment ce soir du débat, de l'événement politique, le débat télé qu'il ne fallait manquer sous aucun prétexte.
Guten Abend und herzlich willkommen.
Dernier grand débat avant les élections législatives allemandes. Dire ça. Vous l'avez pas regardé ? Vous avez pas suivi ? Non.
Vas-y.
Vous faire un petit topo du coup sur les favoris de ce scrutin, la succession d'Angela Merkel, l'écologiste Annalena Baerbock, Armin Laschet de la CDU-CSU, longtemps annoncé comme le successeur de la chancelière, et Olaf Scholz du SPD à gauche. C'est lui qui tient la corde. Mais c'est compliqué les élections allemandes. On vote à la proportionnelle intégrale, il y a tout un système de coalition ensuite. On aura l'occasion d'en reparler, bien sûr. Mais de quoi est-ce qu'on parle en Allemagne dans cette campagne ? Des loyers, de la dette, de la Chine, voilà ce qu'on a pu entendre dans ce débat au centre, dit le journal Le Monde. Le correspondant du journal à Berlin, d'ailleurs, souligne que le mot islam n'a jamais été prononcé dans ce débat et il ne compte qu'une seule occurrence du mot immigration, Einwanderung. C'est comme ça qu'on dit, comme ça vous le saurez pour le coup, pour la suite. Il faut dire que de notre côté du Rhin, en ce moment, c'est un petit peu différent.
La priorité, c'est la lutte contre l'immigration.
On laisse entrer des personnes qu'on n'a pas choisies. On a une immigration incontrôlée.
Le peuple français aura été petit à petit remplacé par un autre peuple.
Interdiction des vêtements religieux, dont le burkini, dans la piscine municipale.
Des millions et des millions d'immigrés venus d'une civilisation arabo-musulmane.
Il faut s'armer contre l'islamisme.
Le plat préféré des Français, c'est le couscous.
Ah, ça a été... Vous avez vu, il est passé
les
deuxième.
Les Italiens ne sont pas les plus gros mangeurs de pizza d'Europe, c'est nous les Français.
C'était l'embouteillage de débats politiques en cette fin de semaine en France.
Oui, les écologistes mercredi soir et ce matin, Valérie Pécresse face à Gérald Darmanin et ce débat qui fait tant parler entre Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour. Sur BFM TV, c'était l'événement, on se croirait déjà dans l'entre-deux-tours.
Vous voyez l'endroit où Jean-Luc Mélenchon sera assis face à Éric Zemmour.
L'arrivée en direct de Jean-Luc Mélenchon dans les locaux de BFM TV qui salue Marc-Olivier Fogiel, directeur de la rédaction. Et alors je vous interromps juste deux petites secondes pour vous montrer l'image en direct. Excusez-moi, vous ne m'en voulez pas. Éric Zemmour qui vient d'arriver. Regardez ces images en direct. Voilà Éric Zemmour qui prend connaissance du plateau où va se dérouler le débat. Il est en train de prendre ses repères. Jean-Luc Mélenchon qui prend lui aussi ses repères dans cette salle où va avoir lieu le débat dans quelques minutes.
Ça, c'était pour l'ambiance dans les studios avant l'émission. Jean-Luc Mélenchon se préparait aussi hier après-midi plus détendu.
Je prépare mon débat avec Zemmour. C'est le troisième.
Bon, par contre, il a peut-être un petit peu abusé du sucre, du lait fraise, Jean-Luc Mélenchon.
Vous êtes borné.
Mais moi,
j'évolue dans la vie, je réfléchis.
Je suis, moi aussi.
Qu'est-ce que vous avez prévu, grand cerveau? Écoutez, petit bonhomme.
Oui, grand bonhomme.
Il y avait notamment...
Oui, grand timonier.
Légèrement rayé, comme disent que M. Zemmour.
Pas du tout rayé, quoi. Pas du tout rayé. Vous me permettez, je ne vous ai pas interrompu. Soyez gentil, vous avez fait une longue tirade, je n'ai rien dit, donc laissez-moi tenir mon raisonnement.
Le melon, ça va?
Mais oui.
Comment
M. Mélenchon va encore hurler, c'est que je pense...
Ne hurle pas, je réponds.
Mauvaise ambiance, non, franchement, sur ce plateau. Tiens, allons voir ce qui se passe sur France 2 pour voir.
Je suis très honoré de pouvoir débattre avec une candidate à la présidentielle. Et je pense, ce sera peut-être l'occasion d'en débattre, cependant, qu'elle mériterait peut-être mettre son énergie, qui est grande, au service du président de la République et au service de la majorité.
Vous voulez la débaucher à la fin de cet entretien?
Je pense qu'on n'a pas beaucoup de différences.
Alors, Valérie Pécresse n'a pas eu l'air enthousiaste à l'idée d'être débauchée. Elle aussi avait préparé ses coups.
Je vois que Gérald Darmanin est impuissant à peser sur cette majorité. C'est ça son problème, c'est que il est un peu une marionnette de droite ligotée par une majorité.
Vous le trouvez pas assez dur? Il a trouvé Marine Le Pen.
Bah oui, je le trouve mou.
Deux membres d'une même famille politique séparés aujourd'hui, mais finalement avec les mêmes références.
Moi, j'ai beaucoup de respect, comme vous le savez, d'amitié pour le président Sarkozy.
Moi, j'aimerais le comparer à Nicolas Sarkozy en 2012.
Ce qu'a fait également Nicolas Sarkozy.
Je prendrai parti.
Je prendrai parti, l'ombre de Nicolas Sarkozy, toujours très présente à droite.
Nicolas Sarkozy aussi présent dans le spectacle des écrivains parlent d'argent ou les portraits?
Oui, parce que... attendez. Non, mais dans Céline, il est venu beaucoup, Sarkozy. Six fois ou sept fois. Et Hollande est venu beaucoup au
Céline.
Non, aux deux spectacles.
Aux politiques parlent d'argent et aux
Mais qu'est-ce que tu veux dire par rapport à l'Allemagne?
Sur l'Allemagne, oui. Que nous parlions de l'Allemagne, oui. Qui a un scrutin majeur dans deux jours et que c'est la succession.
Quelle est votre intuition?
Mon intuition, oui. Impossible sur le scrutin, parce qu'il y a un système de coalition extrêmement compliqué. Oui. Est-ce que les centristes vont aller avec les libéraux ou les écologistes, avec la gauche? Donc en fait, à l'issue du scrutin, le gagnant ne sera peut-être pas le chancelier.
D'accord.
Mais vous suivez beaucoup l'actualité. Beaucoup. Ça...
Oui, mais là, vous faites semblant d'en être détaché.
Non, je m'en occupe énormément parce que je vais jusqu'aux Marseillaises sur W machin. Ouais. Donc, je m'occupe énormément de la télévision.
Ah oui, ça oui.
Donc, ça m'intéresse énormément. Je regarde C'est dans l'air et dans mon spectacle, Les écrivains parlent d'argent, il y a 15 minutes sur C'est dans l'air. Donc, et après ce soir, il y aura 15 minutes sur
Merci.
C'est à vous.
Ah.
Qui n'a pas besoin.
Enfin.
Mais j'ai une pensée pour Marco Fogiel. Parce que bon, il a fait un coup quand même, 3,8 millions.
Absolument.
Fogiel qui est profondément progressiste, qui a deux enfants, que j'ai connu il y a très longtemps. J'ai même, il y a 25 ans, fait un numéro sur les oranges de Gilbert Bécaud. Qui a volé l'orange? Je ne sais pas pourquoi, j'ai eu envie de chanter. Qui a volé, a volé, a volé. Il riait, il pleurait, et on a fait 4,5 millions de vues. C'est une époque très étrange. Donc... moi, je vous l'ai dit, je n'ai pas d'espoir dans la révolution. Je n'ai pas envie qu'on déstructure tout. Je ne vais pas haïr ce système qu'a fait d'un fils d'émigré et un marchand de légumes et maman qui était à l'assistance publique. Je n'ai pas été à l'école et l'ascenseur social a fonctionné. Je n'ai pas le génie des gens de gauche qui disent que collectif, c'est le collectif. Alors, c'est le moment de dire, Gilles Deleuze disait, être de gauche, c'est ouvrir sa porte, et être de droite, c'est ouvrir sa porte et regarder son palier, son petit palier. Être de gauche, c'est ouvrir sa porte et voir le monde.
Mais moi, je n'ai pas cette supériorité intellectuelle. Je m'occupe de mon palier modestement parce que je veux croquer les humains. Et tous les gens de gauche que j'ai vus dans ma vie m'ont pas fait rêver. Ils avaient les mêmes réflexes avec les barmanes. Ils étaient aussi abjects dans leur quotidien que la droite. La droite, j'ai quitté l'île de Ré parce que je pouvais plus les supporter dans leur arrogance. Mais quand j'ai vécu la gauche qui se replie dans la supériorité du bien, mais ça va pas du tout, ils parlent très mal aux gens. Ça va pas du tout. Quand on est de gauche, c'est comme quand on est chrétien. Faut être exceptionnel, t'es condamné. Tu peux pas habiter rue Guynemer et être de gauche, c'est pas possible. Donc tu vois, il y en a un paquet qui vont se barrer. Tu ne peux pas parler, tu ne peux pas dire il y a trop de... Non, tu ne peux pas. Voilà, c'est impossible. Mais c'est mon côté buté, hein.
Oui, un peu buté, mais intéressant quand même.
Mais oui, mais pas élaboré. Moi, je suis un organique.
Pas forcément évident de débattre, Mathieu, pour en revenir au débat de cette semaine, de s'affronter quand on a été dans le même camp.
Oui, c'était valable pour Valérie Pécresse et Gérald Darmanin, qui ont évolué ensemble. Encore plus, évidemment, pour Yannick Jadot et Sandrine Rousseau dans la primaire écologiste. Là,
non, mais elle est terrible, elle.
On en parle après. Non, là, franchement, s'il vous plaît.
Énormément, parce qu'elle est ouverte, elle est très sympa, elle est chaleureuse, et puis elle est très cultivée. Enfin, elle aime beaucoup la culture. Cohn-Bendit disait c'est Jadot qui est l'espoir et c'est Jadot qui va perdre parce qu'il y a une névrose d'échec qui vend aux radicaux, le radicaux qui veut dire tu pourras plus mais qu'ils enlèvent leur portable, par le portable c'est construit par des gosses. Quand on est écolo, on met plus de portable, on n'a pas de portable. Quand on est écolo, on prend pas un avion en week-end à Florence, comme tous les gens du cinéma que je connais, qui partent en week-end à Florence. Quand on est écolo, c'est comme quand on est de gauche. On est haut de gamme, on est magnifique. J'aime beaucoup Jadot. Elle, je sais pas, elle me fait un peu peur parce que je sens une sorte d'Eva Jolie dont les lunettes m'impressionnaient. J'ai dit, les lunettes d'Eva Jolie vont lui jouer des tours. Tu sais, c'est des détails. Pourquoi je m'emballe? Je m'en fous. Je vote pas. Bon. Je ne vote pas.
Non, on verra mardi. Résultat
qui...
mardi. Hein,
on verra,
c'est lui
ouais.
qui va gagner. C'est elle qui va gagner.
Oui, parce que vous avez dit le contraire.
Bendit l'a très bien dit.
Et qui a gagné ce débat, Mélenchon? Zemmour.
Ça, c'est dur à dire. On va demander à quelqu'un de parfaitement objectif, si vous voulez. Louis Amar et Camille Schmitt ont suivi le débat avec des supporters de Jean-Luc Mélenchon dans un bar parisien. Vous devinez la réponse?
Oui.
Qui est-ce qui a gagné ce match?
Bon, évidemment Mélenchon. Il suffit qu'il reste calme et tout marche. Moi, à sa place, je me serais foutu en colère. Hein. Où j'aurais ri. Mais c'est vrai que les idées simples, ça attire les gens. Hein. Bon, quand on donne la même cause à tous les effets, c'est facile. Facile à suivre.
T'as fait les autres?
Alors, comme dit cette dame, on va en entendre d'autres après. Ouais. Alors, Jean-Luc Mélenchon a été calme par moment, plus que d'habitude, peut-être même un petit peu trop calme. Il a eu, comment dire, quelques moments d'absence.
De fadiga.
Un revenu, ils étaient moitié moins en nombre. Mais aujourd'hui, attendez, justement...
Ah pardon, vous parlez de revenus, parce que je me préoccupais de récupérer mon stylo qui est tombé par terre.
Ah oui, ne m'écoutez pas, je me disais aussi.
On a un incident stylo, il est juste en dessous de votre siège.
Ah oui, où ça? Je ne le vois pas. Ah oui, d'accord.
Jean-Luc Mélenchon.
C'est à vous de lui répondre.
Ah oui, d'accord, mais je me demandais si c'était à moi ou à vous. Alors...
Bon, quelques absences, mais soyons complètement honnêtes. Éric Zemmour, lui non plus, n'était pas concentré tout le temps. On lui parle et vous voyez, il est en train de regarder son téléphone. Du coup, un peu taquin, on s'est demandé ce qu'il pouvait bien regarder de si urgent pendant le débat.
Les expatriés qui rentrent chez eux, les travailleurs détachés qui ont fini leur contrat et surtout la cellule fact-checking a vérifié et en se basant sur les chiffres de l'INSEE, il y a 190 000 immigrés de plus par an en France et 50% d'entre eux, c'est important, sont nés en Europe. Nous avons également contacté le démographe Hervé Lebrun qui nous donne le chiffre suivant.
Bon, est-ce qu'on en sait un peu plus sur les intentions d'Éric Zemmour?
Bon, la question est toujours ouverte, mais en l'écoutant dans le débat, on pouvait légitimement se dire qu'on voyait là un candidat à l'élection présidentielle. Mais la question a bien sûr été posée, et là, la réponse, c'est toujours aussi flou.
Je ne sais pas si c'est moi, mais en tout cas, il manque le candidat pour incarner cela. Ça, c'est indéniable.
Donc c'est une façon de dire que vous l'êtes.
Moi, je vous ai connu plus direct. Hein.
Je choisirai mon moment pour décider.
Non, on a compris.
Pour décider.
Ben oui, on verra bien.
Est-ce que vous vous sentez les épaules de mener cette révolution dont vous parlez?
J'ai en tout cas les épaules pour l'annoncer depuis 20 ans.
Alors qu'il soit candidat, journaliste, polémiste, idéologue, une autre question a été posée toute la semaine. Est-ce qu'il faut débattre avec l'extrême droite? Cela dit, Éric Zemmour, bien avant cette soirée, c'est un habitué des débats, des joutes à la télé. On a retrouvé cet extrait de 2017. Éric Dupond-Moretti n'est pas encore garde des Sceaux.
Si les Arabes demain et les immigrés et tous les gens qui sont venus ici se barrent, vous êtes dans la merde pour faire votre ménage. Vous avez compris ?
C'est un argument de bidon. Bon, alors, c'est de bobo, de bourgeois qui
vous,
a besoin d'esclaves.
Vous êtes un grand humaniste.
Qui a besoin d'esclaves.
Avec des mecs comme vous.
Ok, on ne va pas vous mettre d'accord.
On passe maintenant...
Je vais prendre mon taxi arabe, là, tout de suite.
Oui, non, mais tout de suite, là, maintenant, moi, attendez. Éric Dupond-Moretti est depuis devenu garde des Sceaux. Il est ce soir notre invité. Bonsoir, Éric Dupond-Moretti, bienvenue sur le plateau de C'est à vous. Je ne vous présente pas Fabrice Lucchini. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous serez avec nous jusqu'à 20h50, notamment pour présenter un dispositif très innovant pour lutter contre les violences intrafamiliales. On va y revenir longuement. Mais tout d'abord, notamment votre collègue du gouvernement à l'économie, Bruno Le Maire, avait annoncé qu'il ne regarderait pas ce débat Mélenchon-Zemmour. Et vous, est-ce que vous l'avez regardé ?
Non. Je suis allé au théâtre hier soir. Mais j'ai vu la fin du débat, pour être tout à fait honnête. Et d'ailleurs, j'ai regretté mon en parlant tout à l'heure, je pense, du débat. Quant à l'autre, je ne l'ai pas regardé, Pécresse-Darmanin, mais je le regarderai ce soir, en replay.
On peut en parler tout de suite, du débat Zemmour-Mélenchon. Oui. Vous n'auriez pas souhaité le regarder ?
Je trouve que c'est une caricature. Quand vous invitez Fabrice Lucchini, il y a un petit bandeau, Fabrice Lucchini, acteur. Quand vous m'invitez, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Zemmour, il est quoi, là ? Essayiste ? Polémiste ?
Futur candidat ?
Futur candidat, encore faudrait-il qu'il le dise. Bon. Alors, ce débat, on le résume de façon assez simple, manichéenne. Moi, j'aime l'aquarelle. J'aime les nuances dans les couleurs. D'un côté, c'est rouge, vert. Très rouge, très vert, c'est Mélenchon. De l'autre, c'est marron. Et entre les deux, je vous prends tous à témoin, pardon, est-ce que vous avez entendu une proposition ? Une.
Si, Mélenchon a en partie déroulé son programme, notamment sur à la fois sur l'environnement et sur les propositions économiques, sur les hausses des salaires, le SMIC, etc. Oui, il y a eu une partie programmatique, mais c'est vrai, je l'ai dit tout à l'heure dans l'édito, c'était plus idéologique, l'ensemble, que programmatique, oui, dans l'ensemble.
Oui.
Parce que...
Non mais parce que rien, il n'y a pas de proposition. Du côté de M. Zemmour, il n'y a pas l'ombre de l'once d'une proposition. C'est du yaka faucon, c'est un essayiste polémiste.
Mais ces extrêmes qui s'opposent et que choisissent de regarder près de 4 millions de Français, ça dit quoi ? Ça raconte quoi de la politique aujourd'hui et l'élection présidentielle à venir ?
Moi ça m'inquiète beaucoup, je vous parlais de la palette de couleurs et des nuances. Ça veut dire qu'on fait la part belle aux extrêmes. Entre les deux, il y a des gens sérieux qui travaillent, qui sont nuancés, qui sont... des démocrates, enfin, il y a une offre différente que celle des extrémismes. Voilà ce que je veux dire.
Mais cette offre-là, ce débat-là, il intéresse les Français considérablement.
Oui, mais en même temps, on leur offre ce débat-là, pardonnez-moi, entre quelqu'un qui n'est pas candidat à la présidentielle...
Ils avaient le choix hier soir.
Mais ils
pouvaient regarder le ministre de l'Intérieur face à l'une des prétendantes de LR, des Républicains. Ils ont choisi... ils ont été quatre fois plus à... Moi, regardez Mélenchon-Zemmour.
Un marxiste répondrait qu'on a créé le désir.
Ah oui.
Car si on élevait dans une éducation avec de l'école, eh bien, ils auraient choisi quelque chose. C'est très beau ce que dit monsieur
le
ministre.
Vous voulez bien qu'on poursuive cette conversation
dans une seconde. C'est malheur à moi, je suis nuance, disait Nietzsche.
Ah.
C'est ça.
Vous restez avec nous, Éric Dupond-Moretti, Fabrice Lucchini. On poursuit la conversation dans un instant, notamment sur l'une de vos passions communes et plutôt surprenantes.